Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance, dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour durera toujours. De génération en génération, il reste fidèle. C'est avec ces paroles du psaume 100 que le Seigneur nous accueille ce matin chacun. Donc soyons les bienvenus dans sa présence. Je vous invite à prier. Ô Dieu, toi qui es notre Père, merci de nous donner la possibilité de vivre ce temps particulier avec toi ce matin. Que nos cœurs soient tournés vers toi pour te rencontrer et apprendre un peu plus de toi. Que par ton esprit, tes paroles viennent à notre rencontre dans les profondeurs de notre âme et nous encouragent. Merci parce que tu es là avec nous ce matin. Amen. Nous allons vivre un culte un petit peu particulier ce matin parce que il n'y a pas d'équipe de louanges, donc on va faire un petit peu autrement. Et puis on est un petit groupe ce matin, mais que chacun se sente bienvenu. Alors comme vous le savez, pour chacun de nous, la vie elle est faite de moments d'abondance, de joie et de moments plus compliqués. On a l'impression qu'on traverse des déserts. Mais à chaque moment de notre vie, on a l'occasion de décider de tourner nos regards vers Dieu ou pas. Et ce matin, je vous invite à chanter deux chants qui vont nous aider à proclamer que, quelles que soient les circonstances de nos vies, le nom du Seigneur peut être béni et il est celui que nous pouvons suivre. Les chants vont être projetés, voilà. Chantez avec ou pas, comme vous avez envie, comme vous le décidez.
Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine.
Des enfants ce matin. Philippe et Denise. Bon, alors vous pouvez juste nous faire envie et nous dire, sans tout révéler, parce que les enfants, il ne faut pas qu'ils sachent tout à l'avance, mais nous dire de quoi vous allez parler. Je les prends de court en fait.
De Moïse.
Dans les deux groupes. Ah, d'accord. Bon, ben ça suscite en tout cas. Bon, ben voilà. Vous allez apprendre des choses, les enfants. J'espère que ça va être chouette pour vous. Ben, du coup, on vous laisse aller avec Denise et Philippe. Bon culte à vous. Je suis sûre qu'on est tous en train de réfléchir et de se dire c'est quoi le deuxième épisode de la vie de Moïse, un peu croustillant. Bon. Nous, on ne va pas parler de ça ce matin. Heureusement. Voilà. Donc, pour nous introduire à la suite du culte, je vous propose un chant encore.
Toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance et que ta nous manifestons par te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta pureté. Viens sonder, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité, tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, viens nous révéler tes plans élevés. Dans l'éclat résonne, dans l'éternité, par ta grâce nous tiendrons sur tes promesses, par la foi nous te suivrons pas à pas. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire.
Psaume 25. Vers toi, Seigneur, je m'élève. Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi.
Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi.
Que je n'aie pas honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui t'espèrent n'aura honte. Ils auront honte, ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins.
Fais-moi connaître tes chemins.
Apprends-moi tes voies.
Apprends-moi tes voies.
Fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi.
Oui, fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi.
Car tu es le Dieu de mon salut. Je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes.
Souviens-toi de moi selon ta propre fidélité, à cause de ta propre bonté. Seigneur. Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les pauvres dans l'équité. Il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté.
Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté.
Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir.
Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir.
Il reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent.
Oui, les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent.
Pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet.
Tourne-toi vers toi et fais-moi grâce.
Fais-moi grâce.
Car je suis seule et pauvre. La détresse a rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mon désarroi. Regarde mon affliction et ma peine.
Regarde mon affliction et ma peine.
Pardonne tous mes péchés. Regarde combien mes ennemis sont nombreux. Et avec quelle violence ils me détestent. Garde-moi en vie et délivre-moi.
Oui, garde-moi en vie et délivre-moi.
Que je n'aie pas honte. Que je n'aie pas honte. C'est en toi que je trouve un abri.
C'est en toi que je trouve un abri. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je t'espère.
Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses.
Bonjour à chacun, à chacune. Vous allez bien ce matin ?
Oui, 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 oui. Moi aussi, tant mieux.
Alors, ce matin, nous vous avons proposé de vivre un culte ici. Mais vous pouviez également choisir d'aller à Palexpo, où toutes les églises évangéliques de Genève se retrouvent pour vivre une journée ensemble. Ce matin, vous aviez donc un choix à faire, une décision à prendre. Soit d'aller à Palexpo, soit de venir ici à l'EM, soit de rester chez vous pour nous suivre en ligne. D'ailleurs, coucou à vous qui nous suivez. Et vous auriez aussi pu faire tout autre chose. Mais vous avez pris cette décision de venir ici et je nous souhaite du coup de passer un excellent moment ensemble. Ce matin, je vous propose de parler d'un sujet aussi vaste que mystérieux. Un sujet qui nous concerne tous, car nous le faisons tous. Prendre des décisions. Nos décisions influencent ce que nous sommes. Est-ce qu'on peut mettre la première slide ? Merci. Nos décisions influencent ce que nous sommes. Ce que nous sommes personnellement, spirituellement, professionnellement et aussi socialement dans nos relations. Et c'est sans doute pour cela qu'il arrive fréquemment que l'on ne se sente pas toujours bien avec nos décisions dans nos vies. Des décisions que l'on a prises qui nous ont amenés à se sentir coincés ou oppressés dans une situation. Mais nos décisions sont basées sur tout un tas de critères dont souvent nous n'avons pas vraiment conscience. Et c'est la raison pour laquelle il nous arrive de prendre des décisions qui peuvent nous rendre malheureux. Au cours d'une journée, notre cerveau va prendre environ 35 000 décisions. C'est énorme. Mais nous sommes conscientes que de quelques-unes d'entre elles, moins de 0,3% en réalité. On peut se rendre compte qu'on prend des petites décisions, style: quel plat vais-je manger au restaurant ? Quelle série vais-je regarder ce soir ? Comment vais-je m'habiller ? On peut se rendre compte aussi de grandes décisions, style: quel métier vais-je faire ? Avec qui je vais me marier ? Vais-je avoir des enfants ? Vais-je changer de travail ou déménager ? Mais en réalité, quasiment chaque décision de notre quotidien est la résultante de décisions prises. Il s'agit de micro-décisions qui composent notre quotidien. Et c'est vertigineux quand on y réfléchit. Si notre cerveau est capable de prendre autant de décisions par jour, alors il me semble important de prendre conscience de la manière dont nous prenons ces décisions. Et ce matin, c'est au travers du psaume 25 que je vous propose d'observer le mouvement de nos décisions. J'ai choisi ce psaume en particulier à cause du verset 12 qui est le cœur de ce psaume. Il est au centre. Quel est l'homme qui craint le Seigneur ? Il lui enseigne la voie à choisir. La crainte de l'Éternel, c'est pas quelque chose qui nous effraie au point de nous bloquer comme la terreur dans nos vies. Au contraire, je crois que cette crainte est l'étincelle de départ. J'ai toujours pensé que cette crainte est comme une révérence, un hommage à celui qui est le créateur de toutes choses et qui dépasse et surpasse le monde dans lequel je vis. Je me sens bien limitée, moi, dans mon monde. Mais parce que je crois en Dieu, parce que je ressens une humilité profonde qui m'intrigue quand je pense à Dieu, alors mes yeux, mes pensées, mes choix prennent une direction souvent inattendue. Et heureusement que Dieu est là, au final, parce que sinon, moi, je ne saurais pas vraiment prendre de bonnes décisions. Je vous donne un exemple d'une mauvaise expérience que j'ai vécue récemment à partir d'une mauvaise décision. Le 20 décembre dernier, j'étais épuisée. Je me remettais de 3 semaines de grippe carabinée où je n'avais quasiment rien dormi tellement je toussais. 2 cultes m'attendaient. Et à cause de mon arrêt maladie, j'avais pris du retard dans mes préparations. Il était aux environs de 20 heures et après une grosse journée, je me suis dit « Allez, tu vas te préparer un bon thermos de thé, tu finis ta préparation pour la veillée de Noël et tu vas te coucher. » Mais ma tête fatiguée a pris à ce moment-là une très mauvaise décision. Celle d'augmenter un petit peu plus la température de l'eau de ma tisane. Je suis passée de 80 à 100 degrés. Car je voulais que cette tisane reste chaude le plus longtemps possible. Grave erreur. Quand j'ai versé l'eau dans mon thermos, j'ai bien entendu que le métal se dilatait de manière peu normale. J'ai bien senti qu'au final, l'eau était peut-être un peu trop brûlante et que je devrais corriger cette température. Mais fatiguée comme j'étais, j'ai fermé ce thermos et je suis partie en vitesse finir ma préparation. Et puis, l'accident s'est produit. En ouvrant le clapet de mon thermos pour boire, la chaleur avait mis une telle pression à l'intérieur que l'eau est sortie comme un geyser sur mon visage en me brûlant du bas de mon nez jusqu'à mon torse. Je me suis retrouvée brûlée, ici au premier degré et là au deuxième degré. Et heureusement, à ce moment-là, bizarrement, ça m'a remis les choses, les idées en place, parce qu'il fallait absolument, à ce moment-là, pas finir ma préparation, mais diminuer l'impact de ma brûlure. J'ai plongé mon visage très douloureux pendant 20 minutes sous un robinet pour essayer de diminuer l'impact des cloques. Et puis après, mon mari et moi, on a pris la décision d'aller aux urgences. Et heureusement parce que ce genre de brûlure avait besoin de soins particuliers. J'avais mal et j'avais peur d'être défigurée. Mais je savais que je devais absolument ne pas paniquer malgré la douleur. Et puis dans la salle d'attente, alors que j'avais vraiment mal, j'ai réfléchi à comment j'avais fait mon compte pour en arriver là. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas pris soin de moi. Et que je n'avais pas écouté ma fatigue. J'aurais pu aller me reposer en me couchant plus tôt, quitte à me lever plus tôt et finir ma préparation. Il n'y avait pas d'urgence super urgente à ce moment-là. Et au final, c'est moi qui ai fini aux urgences. Une autre bonne décision, c'est que comme mon accident est arrivé le 3e mardi soir du mois, ça ne s'était peut-être pas fait exprès, il y avait la réunion de prière à ce moment-là. Et je sais que certains d'entre vous ont prié pour moi à ce moment. Ce qui me redonnait de la force quand par 6 fois les infirmières m'ont demandé si je ne voulais pas appeler le coupeur de feu. J'ai dit non, on prie déjà pour moi. Et au final, la douleur est partie au bout d'une heure et j'ai super bien cicatrisé. Merci Seigneur et merci pour vos prières. Tout ça pour dire que si on n'est pas attentif à nos besoins vitaux et qu'on prend des décisions dans le stress et l'épuisement, on risque bien des dommages. Il y a donc des pièges et il faut faire attention. Le verset 15 de notre psaume nous dit « Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Dieu a ce pouvoir de nous faire sortir des filets et des pièges. Le problème avec les pièges, c'est que souvent, ils font déjà partie de nos vies. Ils sont là, tels des éléments qui font partie de nous depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même plus compte qu'ils sont là. Les pièges ont souvent un lien avec nos peurs, nos douleurs les plus profondes. Peur du jugement des autres, par exemple, ou du jugement sur soi, de la culpabilité, ou de sentiments tels que la honte, la terreur, la colère ou l'injustice. On en vient à prendre des décisions pour les autres, pour faire plaisir aux autres ou au nom de grands principes moraux, avant de prendre des décisions pour notre bien à nous. Il est intéressant de se demander pour qui et pourquoi on prend des décisions. Car les décisions que l'on prend au final disent beaucoup de comment nous construisons notre vie, de qui on est. La manière dont nous décidons est un processus qui s'établit assez vite dans notre vie, dès l'enfance en réalité. Et puis après, le modèle est posé et si on ne le remet pas en question, il le reste pour prendre des décisions le restant de notre vie. Des millions et des millions de décisions prises ainsi, de manière consciente ou non. Le piège, c'est que si nos décisions sont prises en fonction de peurs comme le jugement des autres ou de grands principes moraux qui sont là mais on ne sait pas trop pourquoi, nous prenons le risque de prendre des décisions qui nous conduisent dans une vie où l'on ne se sent pas vraiment bien. Le roi David, l'auteur de ce psaume, et je trouve intéressant que ça soit dans un psaume parce que c'est vraiment le cœur d'une prière, nous parle ici de ses états d'âme, de sa souffrance. Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre. La détresse a rempli mon cœur, fais-moi sortir de mon désarroi. Regarde mon affliction et ma peine et pardonne tous mes péchés. Regarde combien mes ennemis sont nombreux et avec quelle violence ils me détestent. Garde-moi en vie et délivre-moi, que je n'ai pas honte, c'est en toi que je trouve un abri. David se sent abandonné, esseulé, démuni. Et quand on est dans un tel état de tristesse et d'accablement, de dépression ou d'épuisement, comment être en bon état pour prendre de bonnes décisions? Le roi David, dans sa vie, a pris de très bonnes décisions. Mais il a aussi pris de très mauvaises décisions qui ont eu sur lui et sur son peuple des conséquences désastreuses. Lorsque nous prenons des décisions basées sur des souffrances ou des peurs, en général, on se rend vite compte que quelque chose ne va pas, parce que la décision ne nous fait pas aller mieux. Nous sommes tiraillés entre le fait de demander de l'aide et faire comme si la souffrance n'avait pas tant d'incidence en réalité, et on choisit de faire comme si elle n'existait pas, on est dans le déni. Lorsque nous souffrons et que nous décidons de ne pas prendre soin de nous, nous prenons de mauvaises décisions et on se brûle avec un thermos, ou alors on provoque un accident. On se met dans des situations insensées qui nous conduisent parfois dans une spirale infernale, parce qu'une mauvaise décision entraîne des conséquences difficiles dans lesquelles on va prendre peut-être d'autres mauvaises décisions, et ainsi de suite. Nous ne faisons qu'aggraver les choses. Alors le psaume 25 est une magnifique nouvelle. car il nous indique que Dieu peut nous faire changer de modèle. Sortir des cercles vicieux, dégager les pieds des pièges pour pouvoir prendre la meilleure voie pour nous. Dieu nous donne la possibilité de prendre de nouvelles décisions, celles qui nous font prendre un nouveau virage dans notre vie. Et puis, ce matin, on a la chance que Daniel, celle qui préside le culte, vienne nous raconter un épisode de sa vie sur une décision importante qu'elle a prise. Merci d'être venu. On peut lui envoyer tout notre courage.
Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision.
Si. Alors Daniel, quand on a préparé ce culte, tu m'as parlé d'un changement professionnel que tu as vécu il y a quelques temps. Comment as-tu pris cette décision de procéder à ce changement dans ta vie ?
Alors en fait, en y réfléchissant, depuis qu'on a discuté ensemble, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas une seule décision, mais qu'il y avait plusieurs décisions en fait, qui se sont enchaînées. Donc juste pour le contexte, au niveau professionnel, je travaille en tant qu'indépendante et je travaillais avec une petite équipe de collègues dans des super nouveaux bureaux, on avait aménagé depuis peu. Mais la relation avec une de mes collègues était parfois compliquée, voire très compliquée. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée à devoir faire un choix. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était un processus qui s'était déroulé au final sur plusieurs années. Me retrouver devant ce choix à faire, c'était l'aboutissement d'un long processus. Dans cette relation, il y avait régulièrement des petites choses qui me faisaient remettre en question ma place dans cet endroit, mais j'arrivais jamais à me décider parce qu'il y avait toujours en fait quelque chose de positif qui venait annuler mon sentiment négatif. Et je faisais tout le temps des allers-retours entre « ok, je vais partir », non, finalement, je reste et je m'accommode et voilà, c'est pas idéal tout le temps, mais voilà, ça va, donc je reste. Puis finalement, c'est un élément complètement extérieur à notre profession et nos relations qui est venu, qui est arrivé, et puis qui a, à ce moment-là, tout secoué. Et cette fois, en fait, il y avait eu plein de petits épisodes avant, mais cette fois, ça m'a complètement ébranlée. Et puis, ça a remis très sérieusement cette fois-ci ma collaboration dans cette petite équipe. Et je me suis retrouvée face à un choix clair à faire, où je pars, où je reste, et j'en assume les conséquences.
Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à prendre cette décision ?
Alors, plusieurs choses m'ont aidé. Tout d'abord, une réflexion personnelle, parce que ça tournait beaucoup dans ma tête. J'ai pesé le pour, je quittais une relation qui était malsaine, en tout cas par moment, et qui me pesait. Mais je quittais aussi de très belles choses, d'autres collègues avec qui ça se passait super bien et avec qui je m'entendais bien. Donc ça a été une première chose. J'ai aussi essayé d'évaluer le risque de quitter un endroit, en fait sans savoir où j'allais aller, parce que c'était complètement l'inconnu. Je partais, je disais que je pars, j'annonce que je pars, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. J'ai aussi beaucoup demandé conseil. On en a beaucoup parlé en famille, merci à mon mari. Et puis j'ai aussi pris le temps d'en discuter avec une personne, qui est ici ce matin d'ailleurs, et qui, voilà, j'avais besoin d'un conseil extérieur, enfin, avoir un regard extérieur, et donc on a pris ce temps pour discuter, parce que je me posais beaucoup de questions. Et puis une autre chose, c'est que je me suis fixé un délai, parce qu'en fait, j'avais l'impression que toutes les fois d'avant, je repoussais toujours en me disant « Oh, je verrai plus tard, je verrai plus tard ». Je me suis fixé un délai, et je me suis dit « À ce moment-là, tu auras pris une décision ». Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter cet endroit.
Et comment tu t'es sentie lorsque tu as pris cette décision ?
En fait, c'était assez étrange parce que sur le moment, bah, c'était comme une évidence, quoi. C'est comme si tous les petits indices que j'avais eus pendant plusieurs années me montraient que la situation n'était pas saine. En fait, tout avait convergé vers cette décision et du coup, je me suis retrouvée finalement en paix par rapport à la décision.
Et du coup, après, il s'est passé quoi ? Tu as parlé d'un enchaînement de décisions.
Après le moment où la décision est prise, puis on se dit c'était la bonne, il y a une période, en tout cas pour moi, qui a été assez particulière parce que, au final, de décider de quitter un endroit, c'est perdre plein de repères. Tous mes rituels, tous mes habitudes professionnelles, en tout cas, étaient complètement ébranlées. Et voilà, toutes ces certitudes qu'on a et qui sont complètement ébranlées. Et puis, à ce moment-là, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, il y a tout qui s'est ouvert. Enfin, j'avais un champ de possibles devant moi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je change de profession, je prends un temps sabbatique, j'arrête de travailler, je vais travailler dans un autre contexte, enfin voilà, tout était possible. Mais au final, cette situation, pour moi, elle a été très déstabilisante, parce que je ne savais pas, en fait. Et j'ai trouvé que c'était compliqué de naviguer un peu à vue comme ça et de ne pas savoir.
Alors, on a envie d'en savoir la suite. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver une direction ?
Alors, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis accrochée aux éléments stables de ma vie, parce que là, c'était que le côté professionnel qui était instable. Mais il y avait des tas d'autres choses qui étaient stables dans ma vie. Donc ça, je trouve que c'est important de s'en rappeler. Et puis, j'ai dû faire l'effort aussi d'aller vraiment à l'intérieur de moi, au plus profond de moi. Enfin, c'est ce que tu disais un petit peu avant. Hein. Des fois, on prend des décisions pour faire plaisir à d'autres ou comme ça. Puis là, c'était vraiment de rechercher un petit peu, moi, ce que j'avais, ce qui me motivait vraiment au fond de moi. Alors, à ce moment-là, j'ai finalement décidé que le métier que j'avais appris, c'était le seul que je savais faire. Donc, il fallait que je reste dans ma profession. Voilà.
Pas mal, pas mal. Et du coup, est-ce que tu t'es fixé un cadre pour orienter plus précisément tes recherches ?
Alors, à ce moment-là, il y a il y a trois choses qui me sont venues, qui se sont posées devant moi très clairement, mais des choses très, très pratiques. Hein. Tu parlais de critères, hein, c'était un petit peu ça. Trois critères comme ça, très pragmatiques, qui se sont posés devant moi. Tout d'abord, je me suis dit, j'ai envie de retrouver une petite équipe. J'ai pas envie de travailler seule, donc j'ai envie de retrouver une petite équipe pour avoir des échanges professionnels. J'ai envie de travailler plus près de chez moi parce que c'était assez long où je travaillais, donc tant qu'à faire, autant me rapprocher, mais pas trop parce qu'il fallait que je puisse utiliser mon vélo pour aller travailler. Et puis j'avais envie d'avoir un bureau à moi où je pouvais m'organiser, j'avais pas besoin de partager avec quelqu'un. Et puis en fait, ces critères-là, finalement, à ce moment-là, ils correspondaient le mieux pour moi à pouvoir améliorer mes conditions de travail. Et puis, c'est, je pense, qui s'accordait le mieux à mes besoins profonds aussi. Et en fait, c'est incroyable parce que les choses, elles se sont mises en place comme ça, quoi. Enfin, j'ai trouvé un endroit qui correspondait comme ça à ces trois critères et les choses. Après, se sont déroulées de manière très, très fluide.
Et du coup, qu'est-ce que tu gardes de toute cette expérience ?
C'est en y repensant, finalement, en fait. Maintenant que je me suis dit, finalement, c'est important de garder, dans une décision importante, il y a différents types de décisions, mais dans une décision importante, c'est de garder, de respecter son rythme. Parce que Dieu, il respecte notre rythme. Et lui, il place les éléments, les paroles, les événements sur notre chemin au moment où on est prêt à les accueillir et à les entendre. Et puis, une autre chose qui a été importante, c'est de me dire que dans une période qui est pas mal ébranlée, où on ne sait pas trop où on va, où il y a des incertitudes, de s'appuyer sur ce qui reste stable, c'est aussi important. Et Dieu, Il est le même, toujours. Et une autre chose aussi importante, c'était d'apprendre à être à l'écoute de mes besoins, de mes désirs profonds. Ce n'est pas toujours ce que j'ai appris dans ma vie. Et ça a été un travail de se dire, finalement, moi, qu'est-ce que je désire vraiment ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? C'est aussi une manière d'honorer Dieu dans le sens où, finalement, nos désirs profonds, c'est lui qui les met en nous. Donc, c'était important d'être à l'écoute de ça. Et puis, ça a été aussi une occasion, évidemment, une occasion propice pour apprendre un peu plus à faire confiance à Dieu.
C'est beau, merci beaucoup. T'as bien géré, bravo.
Toi aussi.
Merci. Merci Daniel, merci de nous avoir partagé cette expérience. Vous voyez, Daniel, elle a été traversée par tout un enchaînement de décisions, comme si les décisions qu'on prenait avaient vraiment un mouvement. Et c'était le cas aussi pour le roi David, c'est le cas aussi pour moi, et je pense que c'est le cas pour chacun de vous. David, lui, il y a eu des moments où il a senti de la peur, il s'est senti menacé. Il a eu si souvent peur pour sa vie, en vrai. Quand on lit ses psaumes, on s'en rend compte. Et là, au verset 20, David implore Dieu. « Garde-moi en vie, délivre-moi, que je n'ai pas honte. C'est en toi que je trouve un abri. Garde-moi en vie, ou garde mon âme. » C'est la même chose. La vie est sans doute le critère numéro un sur lequel David se base pour choisir l'aide de Dieu. La vie est d'ailleurs le choix que Dieu propose à son peuple depuis toujours en réalité. En Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit au peuple d'Israël qui arrive à la fin d'un long périple de 40 ans dans le désert, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » C'est quand on sent que la vie nous échappe que l'on se rend compte que c'est la vie qui est le bien le plus précieux qui nous a été donné. La vie est le critère numéro un, du coup, pour établir nos modèles de décision. Car oui, c'est peut-être un peu trop basique ce que je vais vous dire, mais sans la vie, en fait, on est mort. La vie comme critère pour faire des choix, ce qui signifie que le modèle proposé va chercher en premier lieu à préserver la vie, être en sécurité dans nos besoins vitaux. Notre habitation, notre nourriture, notre santé à la fois physique et psychique. Améliorer la vie dans les relations, dans nos environnements de vie, dans notre mode de vie. Rendre la vie créative, parce que la vie est créative. Se former, s'intéresser à l'essence même de la vie, à Dieu qui nous donne la vie. Dieu qui donne la vie en nous, fabriquer aussi quelque chose de nous-mêmes qui témoigne de cette vie qui nous traverse. Transmettre la vie enfin, car pour l'instant, dans ce monde, nous sommes mortels. Et comme avant nous, il y a eu des gens qui nous ont transmis des choses essentielles à la vie, après nous, il y a aussi des générations qui viennent et qui sont déjà là. Quelle part de vie, quelle possibilité transmettons-nous dans nos familles, dans notre église ici et dans le monde. La vie comme critère numéro un offre des perspectives bien plus vastes que celles de nos peurs. Mais je sais aussi que c'est un sacré boulot, en fait c'est le travail d'une vie, d'entreprendre un chantier où l'on change des fondements profonds, ancrés depuis toujours. Mais Dieu est là et il nous donne ce qu'il nous faut pour cela.
l'Esprit Saint, par exemple, qui vient sonder en nous, nous consoler, nous rassurer, nous fortifier. Et puis Jésus qui se donne présent pour nous, pour toujours, comme modèle de ce qu'est la vie avec un grand V. Il est l'image de la toute-puissance de Dieu, de cette vie qui dépasse notre existence. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et c'est bel et bien cela. Le Dieu de vie est avec nous. Il est là. Et s'il est là, Dieu, c'est que la vie, elle est là. La vie nous a été transmise comme un don précieux. Même si nous menons des existences où l'on peut ressentir de la douleur. Mais en fait, éviter la douleur n'est pas le critère numéro un. Il y en aura toujours une part, tant que nous vivons dans ce monde, je crois. Et en fait, quand je pense à la vie que Jésus a menée, c'est ce que je me dis. À la vie, il y aura toujours une part de douleur. Et l'accepter, je pense, rend notre vie meilleure. Cela rend notre vie meilleure car en l'acceptant, nous acceptons aussi que nous sommes limités et que Dieu, lui, il peut tout. Nous pouvons alors marcher sur la voie qu'il nous enseigne. Car un jour, on se retrouvera face à lui, avec nos vies bien remplies de décisions bonnes et mauvaises. Mais ce qui compte, c'est d'avoir dans notre cœur cette même prière que le roi David, que je n'ai pas honte, c'est en toi que je trouve un abri. Que je n'ai pas honte de la manière dont j'aurais vécu ma vie, car c'est auprès de Dieu que je cherche un abri pour l'éternité. C'est à l'abri, auprès de Dieu, que je nous souhaite, à chacun et à chacune, que nos décisions nous mènent. Amen.
Je vous invite tout simplement à un temps de silence.
Désolée, je cherchais le micro.
Voilà. Je peux imaginer que cette enfin, tout ce que Célina nous a apporté ce matin vous a fait penser à certaines décisions que vous avez peut-être prises dans votre vie. Alors, vous avez un petit moment maintenant, c'est l'occasion de partager peut-être, pour ceux qui ont envie, l'une ou l'autre décision dont vous vous souvenez particulièrement. Je vous laisse le micro, faites-moi signe.
Alors là, je crois que ce matin, je suis obligée de prendre le micro. Alors, je vis un peu la même prise de décision que Daniel, surtout au niveau donc professionnel. Je suis une maîtresse d'école depuis 16 ans et je suis en plein processus de décision de changement de voie. Alors là, oui, parce que quand on est maîtresse, faire autre chose, on est un peu coincé. Donc si on veut changer, on est obligé de se reformer. Donc là, je savais que si je quittais cette profession, c'était vraiment pour faire autre chose et que je devais passer par une formation. Et passer par une formation quand on a une famille et 3 enfants, voilà, c'est une décision qui n'implique plus que moi, mais toute une famille. Donc voilà, je vous avouerai que de septembre à janvier, j'ai passé par cette phase de déstabilisation et de qu'est-ce que je fais et quel impact ça va avoir sur moi, sur ma famille. Donc j'étais pas très bien, effectivement. Et puis, j'ai été très encouragée. À part ça, tout le monde autour de moi m'a encouragée à quitter mon travail pour faire cette formation. Donc je remercie en l'occurrence mon mari beaucoup, qui m'a beaucoup encouragée et qui est très confiant de ce qui va se passer. Et puis du coup en janvier, j'ai pris la décision de m'inscrire. Alors j'ai fait un premier pas, ça veut dire que je me suis inscrite à l'école pour faire la formation, pour devenir bibliothécaire. Mais je n'avais pas encore démissionné. Ça, c'était le deuxième gros pas à faire. Alors, tout le monde me disait, c'est bête, tu ne vas pas faire les deux en même temps. Donc, si tu t'es inscrit à l'école, c'est que tu vas forcément démissionner. Oui, mais c'est un gros pas à faire quand on est enseignant, quand on est fonctionnaire, on a une sécurité du travail quand même. Des conditions jusque-là de maman qui ont été très appréciables. Je n'ai jamais eu besoin de me poser la question de qui allait garder mes enfants. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai dû quand même passer le pas parce que j'avais une deadline. Là, j'avais un délai qui m'était imposé par l'État au 28 février. Donc voilà, j'ai dû déposer ma démission. Et puis en fait, maintenant que c'est fait, tout s'est apaisé. Je suis très contente de mon choix. Je me réjouis beaucoup de tout ce qui va s'ouvrir devant moi, même si pour l'instant, j'ai pas de recul. On verra ce que cette décision m'apportera ou pas. Mais c'est vrai que depuis que la décision est prise, tout s'est un peu apaisé et voilà. Je suis aussi quand même dans une phase où je vois un peu tout ce que je vais perdre. Parce que quand on n'a pas le recul, on voit ce qu'on perd, mais on ne voit pas encore ce qu'on gagne. Donc là, je suis un peu dans la phase où je vois tout ce que je vais perdre en quittant mon travail. Mais voilà, j'accepte cette phase-là. Et puis voilà, je me réjouis, mais c'est vrai que le lâcher prise, c'est quelque chose qui est pas facile, et pour certains plus que d'autres peut-être. Donc pour moi, c'était vraiment pas simple de tout lâcher et puis de faire confiance à ce qui va s'ouvrir devant moi. Mais voilà, je me réjouis. Du coup, je remercie aussi Dieu de cette sérénité qui met en moi ces jours et ces mois qui arrivent par rapport à cette décision, et puis ces 3 années qui vont se passer là. Voilà.
Merci. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose ?
Merci pour ces témoignages. Moi, j'aimerais vous témoigner aussi le fait que les décisions... pour moi, elles sont synonymes de deux choses qui sont interdépendantes, c'est-à-dire le lâcher prise et le fait que bah, parfois on fait des décisions dans la vie, on ne se rend pas compte sur le moment que ce n'est pas toujours les meilleures décisions. Mais il faut aussi enlever le poids de la culpabilité par rapport à des décisions qui peuvent nous mener à un échec. Pour ma part, j'ai divorcé, je me suis mariée jeune, et j'ai divorcé de quelqu'un que j'ai profondément aimé et je pensais que c'était la bonne décision. Et puis, dans mon parcours de vie, je me suis rendu compte maintenant que cette décision-là, c'est-à-dire de me marier et d'avoir divorcé, m'ont amené plein de choses finalement. Savoir lâcher prise, c'est quelque chose qui est tellement important et qui est vital pour l'être humain aussi. Et pourtant, on est dans une société où on veut tout contrôler. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui sont indépendantes de notre propre volonté intrinsèque. Et c'est là que Dieu intervient aussi. Et il nous aide à aller de l'avant pour prendre de nouvelles décisions. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai appris, que je voulais vous partager, c'est que parfois on a peur de faire des choix, aussi difficiles soient-ils. Hein. Prendre une décision, c'est pas que un phénomène parfois positif, ça peut être aussi négatif de prendre une décision à un moment donné dans notre vie. Mais en même temps, Dieu, il est là aussi pour nous rattraper quoi qu'on fasse. Ça ne veut pas dire qu'on doit foncer dans un mur, mais c'est juste dire, on sait que Dieu, il est là dans le prochain carrefour avec nous, en fait. Voilà, je voulais vous encourager par rapport à ça.
Merci. Quelqu'un d'autre a encore très envie de partager quelque chose ? Je crois qu'on a beaucoup reçu, en tout cas. Denise, c'est à toi.
Tu m'as conduit. Père, tu me conduis tous les jours de ma vie. Tu me conduis quand j'ai perdu mes repères. Tu me conduis quand la vie est joyeuse. Tu me conduis quand le rideau des larmes voile mon chemin. Père, tu me conduis sur une route sûre, même si elle n'est pas tranquille, même si elle n'est pas facile. Je m'y sens en sécurité parce que tu es à mes côtés. Père, le chemin que tu traces est pour moi parfois douloureux. La voie où tu me conduis est parfois escarpée. Père, lorsque le chemin est trop dur et que je n'arrive plus à te suivre, permets-moi de m'arrêter un instant, de poser ma tête sur ta poitrine et de pleurer. Permets-moi d'être faible sur ton chemin et de découvrir à nouveau la force qui me soutient.
Je vous propose de nous lever et de dire le Notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, et avant les annonces, nous allons encore chanter un chant.
Alors, pour les annonces, vous avez le programme qui est disponible à la sortie pour mars et avril. Donc, vous pouvez vous servir et vous pourrez justement voir que cette semaine, mardi 7, à 12h, temps de jeûne et prière à la chapelle. Donc, ce mardi 7. Dimanche prochain, culte avec Philippe Anchaud. Et qui sera organisé par le groupe CTT. Et puis, notez aussi le colloque, donc c'est notre assemblée générale de l'association Église évangélique de Mérin, qui aura lieu vendredi 24 mars. C'est aussi noté dans le programme. Vous recevrez les convocations tout bientôt. Donc venez, c'est l'occasion de voir un petit peu la vie de l'Église. Ça sera aussi l'occasion de valider les comptes 2022 et de voir un petit peu comment l'association est structurée. Encore pour cette semaine, le groupe CTT qui se réunit le mercredi à 20h. Vous pouvez déjà venir dès 19h, donc c'est un groupe de jeunes pour les 15-25 ans. Et puis, il y a encore pour les 60 ans de l'IEM, puisque cette année, nous fêtons les 60 ans de notre Église. Michaela, qui pilote l'ensemble du projet, et vous avez vu les petites vidéos ces derniers temps, va mettre en place les groupes, mais vous pouvez continuer à vous inscrire sur la feuille qui est au fond, la feuille jaune, pour renforcer les équipes, c'est d'organiser... ces 60 ans, et ces 60 ans s'ils s'organisent, c'est parce que vous vous investissez. Sinon, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de 60 ans.
Juste dire pour le colloque, on a une liste de ceux qui sont inscrits pour recevoir les convocations, les invitations pour le colloque. Si vous n'avez pas reçu les dernières, c'est que vous n'êtes pas sur cette liste. Vous pouvez simplement demander et puis on vous les enverra.
Merci. Dernier point, donc notre Église fonctionne uniquement grâce à vos dons. Et puis vous pouvez exercer vos dons par Twint ou bien par versement bancaire avec l'IBAN qui se trouve au fond ou directement en mettant dans le petit panier qui est tout derrière. Merci.
Je vais juste encore prier pour Lorraine. Ça te dérange pas ? Seigneur mon Dieu, je te prie que tu puisses bénir Lorraine dans sa décision de changer d'orientation, que tu puisses l'entourer, elle et sa famille, pour qu'ils puissent avoir l'aide, la force, les ressources nécessaires pour vivre ce changement pour chacun d'eux. Je te prie que Lorraine puisse recevoir tout ce qu'elle a à recevoir de ce changement de vie, de cette nouvelle formation, et qu'elle y prenne un plaisir immense. Amen. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale, que je vous lis dans Jean 17. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné autorité sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ta gloire sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Que la vie puisse être votre socle pour suivre le chemin que Dieu met devant vos pieds. Que vous puissiez toujours croître dans votre foi et dans votre connaissance de Dieu. Que votre route vous mène vers le meilleur qu'il vous propose. Allez dans la grâce, dans la paix et dans l'espérance de notre Seigneur. Amen. Et très bonne semaine.